Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi politique. C'est le député Les Républicains Éric Ciotti qui nous accompagne ce soir sur RFI. Également président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, secrétaire général adjoint en fédération du parti. Bonsoir Éric Ciotti,
bonsoir.
Bienvenue. Pour vous interroger à mes côtés, Roselyne Fèvre de France 24 et Alain Onfray de Libération. Et c'est encore la réforme constitutionnelle et surtout l'article 2, la déchéance de nationalité qui continue à alimenter le débat politique et surtout les querelles à droite comme à gauche. L'issue du vote demain paraît toujours totalement incertain. La majorité est profondément divisée et la droite, elle aussi, avance en ordre dispersé avec ses propres frondeurs, François Fillon à leur tête, qui conteste la position du patron des Républicains, Nicolas Sarkozy, qui est lui favorable au vote. Passe d'armes musclées ce matin en réunion de groupe à l'Assemblée entre l'ancien président et son ancien Premier ministre, Éric Ciotti. On est là déjà dans la bataille des primaires ou c'est vraiment une ligne de fracture à droite ?
Non, c'est un débat de fond et j'espère qu'il n'y a pas derrière ce débat des motivations liées à la primaire.
Du
c'est
tout.
Un débat qui touche à un sujet extrêmement grave, préoccupant, qui préoccupe beaucoup nos concitoyens. Le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, comment notre nation a la capacité à se défendre, à protéger ses concitoyens, comment face à cette menace maximale, et on sait que ces jours-ci, la menace est toujours maximale, comment la France réagit, réplique à ceux qui veulent nous détruire. Alors, il y a ce débat sur la déchéance de la nationalité. C'est pas nous qui avons voulu la réforme constitutionnelle. C'est le président de la République qui a souhaité poser deux questions. Nous devons y répondre. Est-ce qu'il aurait fallu aller sur d'autres sujets plus prioritaires pour lutter contre le terrorisme ? Sans doute. Mais en tout cas, nous sommes parlementaires. Et dans cette famille politique des Républicains, nous avons à nous prononcer. Donc en responsabilité, ce matin, au sein du groupe à l'Assemblée nationale, chacun a exprimé ses positions, son point de vue. Ça a été un beau débat. C'est un des grands débats parlementaires, sans doute, de cette législature. Encore une fois, je le redis, sur un sujet majeur.
Et qu'est-ce qu'il en est ressorti, alors, finalement ?
Pour notre
pays. Il n'y a toujours pas de position commune.
Il n'y aura pas de position du groupe. Chacun se déterminera en conscience. Il y a ceux qui, traditionnellement, et je dirais depuis toujours, et je respecte bien entendu leur position, sont opposés au principe de déchéance de la nationalité. C'est le cas de Patrick Devedjian, c'est le cas de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce sont des parlementaires qui, déjà, lorsque Nicolas Sarkozy posait ce débat, et il avait raison de le faire, en 2010, dans ce fameux discours de Grenoble, tant décrié par ces voix qui s'élevaient pour dénoncer alors l'horreur et l'abomination et qui aujourd'hui viennent sur ce même terrain.
Mais bien, Sarkozy a eu raison avant l'heure.
Naturellement, et les faits lui ont donné raison, c'est objectif. Donc il y a ceux qui par principe, et je respecte tout à fait leur position, sont contre la déchéance. Et ils ne changeront pas de vote, et c'est normal, parce qu'autrement ils se déjugeraient. Il y a ceux qui regardent un peu avec, effroi, une forme d'effroi, ce qui se passe dans ce débat politique depuis 2 mois maintenant, où on voit le gouvernement qui a changé 4 fois de version, la majorité se déchirer, ça a été très violent. Là, c'était dans l'hémicycle. Vendredi dernier, quand j'ai commencé mon intervention, je n'arrivais pas à parler parce que M. Cherki invectivait M. Leroux et vice-versa. Et c'était assez violent. M. Leroux, devant moi, disait à M. Cherki de rejoindre les bancs. Je n'ai pas bien compris si c'était ceux des Républicains ou des écologistes. Enfin, je préfère pas que ce soit ceux des Républicains, en demeurant. Donc, il y a cette violence dans la majorité. On ne sait toujours pas, d'ailleurs, ce que la majorité va voter ce soir. Et beaucoup des députés chez nous ont dit, non, nous, ce spectacle, ça suffit. Mais Nicolas Sarkozy a bien posé le problème ce matin. Le problème de la cohérence. Le problème de l'unité nationale face au terrorisme. Il s'est prononcé et il s'est adressé à nous, un homme d'État, un ancien président de la République, en disant il faut, face au terrorisme, être responsable. Ça a toujours été notre ligne de conduite. Nous avons un ennemi qui a déclaré la guerre à notre pays. Il faut l'unité pour le combattre. Nous avons systématiquement soutenu les textes depuis 2012, en tout cas c'est mon cas à l'Assemblée nationale, et j'ai souvent été l'orateur pour mon groupe, qui visait à aller plus loin dans la protection des Français. Pas assez loin en demeurant, parce qu'il a fallu y revenir 5 fois. Si les socialistes nous avaient écoutés dès le début, on aurait gagné du temps et on aurait peut-être épargné des drames à notre pays. L'opposition n'a pas été suffisamment écoutée. Mais en tout cas, nous, nous avons toujours été responsables. On n'a pas fait, contrairement aux socialistes au moment de l'affaire Mera, on n'a pas fait du sujet du terrorisme une affaire politicienne. C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Bannissons de ce débat les considérations politiciennes. Il faut de la hauteur, de la responsabilité face au terrorisme. Et en plus, il faut de la cohérence. Comment voterions-nous, en tout cas en ce qui me concerne, mais en ce qui concerne aussi beaucoup de parlementaires, contre une mesure dont quelque part nous sommes à l'origine? La déchéance de la nationalité, personnellement, je l'ai défendue par 2 fois dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'était encore en septembre 2014. Monsieur Cazeneuve me disait alors que c'était un débat totalement inutile et totalement politicien. Bon, aujourd'hui, les faits m'ont plutôt donné raison. Mais cette idée, elle vient de chez nous. Je rappelais le discours de Grenoble. Donc, pourquoi? Parce que c'est Monsieur Hollande qui la propose. Serions-nous d'un coup opposés à quelque chose dont on est à l'origine? Il y aurait une forme d'incohérence et les Français ne supportent plus cette incohérence. C'est une question aussi de crédibilité de la parole publique dans cette période aussi grave.
Rosine-Ferre. Alors justement, comment expliquez-vous la position de François Fillon? Est-ce que ce sont des manœuvres, des stratégies politiques? Parce que le débat, derrière ce débat, il y a effectivement la primaire, comme le disait Véronique, qui a déjà commencé. Et puis la question que vous posiez, comment s'opposer à un adversaire qui fait votre politique? Est-ce que François Fillon, là, est à côté de la plaque?
Je ne dirais pas ça, je respecte sa position. Il a une position qui est basée sur des considérations d'abord juridiques, en disant qu'on ne doit pas, et que ce n'est pas nécessaire et pas utile de réformer, de toucher à la Constitution. Je ne partage pas son point de vue. D'abord,
mais est-ce qu'il y a une stratégie derrière, pour lui?
Je ne sais pas. moi, quand il dit ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile, je regarde l'avis du Conseil d'État, auquel a été soumis ce texte, comme tout projet de loi.
Et qui dit que c'est utile.
Le Conseil d'État dit qu'il est utile et nécessaire de constitutionnaliser l'état d'urgence. Je rappellerai que le comité Balladur, qui préparait la réforme constitutionnelle voulue par Nicolas Sarkozy, l'avait souhaité, et que ça avait été sorti parce qu'on craignait que la gauche ne le vote pas. Et le Conseil d'État dit également que la déchéance de la nationalité, notamment pour les binationaux nés français, nécessite une réforme de la Constitution. Alors après, on aura un débat de constitutionnalistes, de juristes. Aucun n'est d'accord, mais le Conseil d'État, instance suprême du Conseil du gouvernement, juridiction administrative la plus élevée, dit qu'il faut passer par une réforme de la Constitution. Le président de la République nous pose cette question, nous devons y répondre. François Fillon dit, lui, c'est pas nécessaire. Donc il a des arguments de forme, il n'est pas contre la déchéance. Mmh. Il a redit ce matin, mais moi j'ai le sentiment que ce débat juridique va, dans ce contexte, difficilement être perceptible par nos concitoyens. On a un message clair.
C'est un message pour la nation, hein, c'est pas un message pour lutter contre
voilà.
Le terrorisme, en fait.
Mais est-ce que la nation unie dit aux terroristes qui n'ont pas leur place lorsqu'ils portent les armes, lorsqu'ils sont condamnés pour cela sur le territoire national?
Alain Onfray.
Est-ce que vous n'êtes donc pas d'accord avec Nicolas Sarkozy quand il dit, comme il l'a dit ce matin, si on a bien compris ce qui s'est passé, que la position de François Fillon relève de la posture politicienne, de la petite politique?
C'est pas ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. J'étais à cette réunion de groupe. Il s'est pas adressé à François Fillon. Il a indiqué très clairement que ce débat nécessitait de dépasser le cadre politique traditionnel, le clivage qui nous oppose à François Hollande. Et nul ne peut suspecter Nicolas Sarkozy de mansuétude à l'égard de François Hollande. Bien au contraire, c'est le premier opposant, et ça lui est souvent reproché, à François Hollande. Mais là, parce qu'il a eu l'expérience de la présidence de la République, dans des moments dramatiques aussi, l'affaire Mera, il dit, il y a la nécessité de l'unité de la nation, il y a la nécessité de la cohérence aussi par rapport à nos idées. Je crois que cette position, elle est simple, elle est claire. Et en politique, il faut toujours être clair et être fidèle à ses convictions et aussi, quelque part, répondre à l'attente de ceux qui nous ont fait confiance. C'est pas insultant. Moi, il y a toujours cette idée de dire on se méfie du peuple. Mais le peuple, c'est l'essence de la démocratie. Ce que pensent nos concitoyens quand ils disent massivement dans des enquêtes qu'ils soutiennent la déchéance de nationalité pour ceux qui sont condamnés pour actes de terrorisme, certains considèrent que c'est suspect quand majoritairement, très majoritairement, les Français disent cela. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut aussi écouter ce que nous demandent les Français.
Être clair, c'est également reconnaître qu'il y a bien eu au moins un attentat sous le... la présidence de Nicolas Sarkozy, on parlait de l'affaire
Bien Mérin. Sûr, mais tout à fait. Nicolas Sarkozy était à Montpellier hier. Il a redit très clairement, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il y a eu une incompréhension qui a été montée en épingle, mais il n'y a aucune ambiguïté.
Même si le vote est incertain demain à l'Assemblée, si l'Assemblée devait voter en faveur de cette déchéance de la nationalité, le texte ira ensuite au Sénat. Il doit être voté exactement dans les mêmes termes. Ça va être une autre affaire, hein, puisqu'il y a beaucoup d'opposants également au texte au Sénat. Est-ce que vous sentez que ça peut aller, on peut aller jusqu'au Congrès, jusqu'à une révision constitutionnelle avec une telle réforme?
Moi, je l'espère, et j'espère que...
Vous y croyez, c'est Versailles fin mars.
J'espère que la ligne qui a été défendue au moment du congrès de Versailles sera respectée. Nous, nous avons toujours été clairs, et Gérard Larcher aussi l'a dit, et il assistait avec Nicolas Sarkozy à la rencontre qui a eu lieu à l'Élysée, il y a 2 semaines, je crois, entre le président de notre famille politique, Nicolas Sarkozy, les 2 présidents de groupe, Christian Jacob, Bruno Retailleau, et le président du Sénat. Et ce qui a été dit est clair, et j'adhère totalement à cette démarche, c'est la fidélité à l'engagement qui a été pris devant toute la représentation nationale, qui a applaudi debout, unanime, pour modifier la Constitution sur ces deux points. Si ces deux points ne sont pas travestis par la majorité socialiste, eh bien, il n'y a aucune raison qu'on ne les vote pas. Et ça sera ma ligne encore ce soir et demain.
Alain Onfray.
Ce que vous dites accrédite un peu une théorie défendue par Jean-Pierre Raffarin, comme quoi il y aurait une sorte, un pacte de Versailles entre Nicolas Sarkozy
et
Hollande. À Sarkozy, la victoire idéologique, et à Hollande, la victoire politique, ou un truc comme ça.
Je crois que c'est une analyse un peu... qui fait preuve d'un raccourci audacieux. S'il y a eu pacte de Versailles, c'est devant la représentation nationale qui représente toute la nation et le président de la République qui a prononcé un discours. J'ai pas l'impression que beaucoup à l'époque aient protesté contre ce discours. Jean-Pierre Raffarin lui-même, je crois qu'il a applaudi le président de la République et j'entendais même quelques jours après que Jean-Pierre Raffarin souhaitait un pacte pour l'emploi avec le président de la République.
C'est assez étonnant
que sur certains sujets, certains veuillent travailler avec la gauche, sur des sujets où on n'a aucun lien, aucune proximité idéologique, sur l'emploi, alors que le gouvernement socialiste est responsable de la situation dramatique dans laquelle se trouve notre économie et que nous ne partageons aucune des solutions qu'il propose pour sortir les Français qui sont dans cette situation de non-emploi à plus de 6 millions aujourd'hui de nos concitoyens qui sont touchés, et que lorsqu'il s'agit du terrorisme qui, là, pour le coup, nous rassemble, eh bien, ces mêmes personnes disent « Alors là, il ne faut pas travailler ensemble, il ne faut pas faire l'unité nationale. » Donc, l'unité nationale pour les questions sur lesquelles on n'est pas d'accord et la division nationale sur les questions sur lesquelles on devrait être d'accord. Il y a une forme de paradoxe que j'avoue ne pas comprendre.
Hier, lundi, donc pour voter l'article 1 sur l'état d'urgence, 441 députés ne sont pas venus. Une immense partie des députés, les Républicains, mais aussi des socialistes.
Est-ce qu'on peut se dire, Éric Ciotti,
j'étais là, merci de le rappeler.
Oui, vous étiez là. J'allais le faire, mais on peut se. Est-ce que vous pouvez à la fois, je dis pas vous, mais se désespérer de l'abstention des électeurs et à la fois ne pas respecter les engagements du député qui est d'assister au débat? Est-ce que c'est pas irrespectueux?
C'est un débat aussi vieux que le Parlement. Il y a cette forme d'anti-parlementarisme qui peut être nourrie par ces images, mais sur ces débats, ils appellent aussi la mobilisation d'abord des spécialistes de ces questions. Moi, j'étais là hier soir parce que, naturellement, au sein de mon groupe, je suis membre de la commission des lois. C'est un texte qui vient de la commission des lois, qu'on a débattu en commission des lois, qu'on a amendé. Donc, il y a d'abord les commissaires des lois qui sont dans ces débats. Moi, j'assiste pas forcément à des débats budgétaires parce que il y a aussi une continuation entre le travail parlementaire. Il y a une chaîne qui part de la commission dont on siège et qui réunit les spécialistes de cette question. Je sais que je ne serai pas entendu, ce n'est pas une justification. Je suis très présent personnellement à l'Assemblée nationale. Il y a des classements, d'ailleurs, il y a des sites aujourd'hui qui jugent et qui jaugent la présence. Et je crois qu'être en mesure de ne pas avoir à rougir de mon activité parlementaire. J'ai été élu, élu, ce n'est pas une élection, j'ai été désigné par un jury de journalistes, donc personnalité crédible. Député de l'année 2015, la semaine dernière. Je suis attaché au travail parlementaire, j'y accorde un caractère prioritaire. Mais je dis aussi, c'est pas pour excuser ou pour justifier, il y a aussi d'abord dans l'hémicycle ceux qui ont suivi le texte en commission. Parce qu'on ne peut pas être sur tous les textes. Voilà, moi, je ne suis pas sur des textes, encore une fois,
économiques. Mais qu'est-ce qu'il devrait être pénalisé ? On peut excuser une absence, peut-être deux, trois. Voilà.
C'est le cas. L'Assemblée nationale a introduit des pénalités sur des absences en commission aujourd'hui.
Là, vous confirmez que leur absence, elle était vraiment et clairement politique.
Après, il y avait...
Dans le sujet divise à droite comme à gauche. Certains ne voulaient pas être là.
Il y a certains parlementaires qui
n'ont
pas souhaité peut-être au stade du débat... notamment dans nos rangs, être présent hier soir en disant on va voir ce que il y a un débat interne dans la majorité, voyons comment il avance et puis on se prononcera en fonction. On l'a souvent dit aussi. Regardons comment la majorité va dénaturer ou pas ce texte. Il y a eu d'ailleurs hier soir un coup de canif assez grave que le gouvernement manifestement veut réparer ce soir. C'est la suppression du droit de dissolution pendant les périodes d'état d'urgence.
Oui,
j'ai dit très clairement.
Le Premier ministre va revenir là-dessus. Alors on revoit dans ces cas-là, on fait quoi ? C'est quoi le problème ?
Il y aura une deuxième délibération ce soir où on revotera. Moi, j'ai dit très clairement, immédiatement après l'adoption de cet amendement qui a manifestement pris de court la majorité, que c'était pour nous une ligne rouge que nous n'accepterons pas de voir dépasser, toucher à des questions qui ne relèvent pas du domaine concerné, c'est-à-dire la déchéance ou l'état d'urgence, donc le terrorisme, pour nous est inacceptable. J'ai toujours dit Versailles, mais rien que Versailles et tout Versailles, sans attrait, sans ajout, ni sans retrait, pardon. Donc c'est clair, si d'autres veulent y mettre des considérations qui n'ont rien à faire dans cette réforme constitutionnelle, nous la refuserons et nous avons dit... pour le coup, ce matin, unanimement, que si ce dispositif de suppression de la dissolution persistait, pour le coup, nous nous opposerions dès demain soir à la réforme constitutionnelle.
Donc, de fait, voilà, vous regrettez l'absence d'une majorité de députés hier dans l'hémicycle.
C'est une vieille technique, comme vous le disiez, parlementaire.
Mais oui,
c'est,
mais tu peux avoir les conséquences,
voilà,
c'est grave, puisqu'il va falloir remettre...
C'est aussi, ce débat est aussi vieux que l'existence des parlements.
Oui, mais est-ce que c'est parce qu'il est aussi vieux qu'il faut le laisser perdurer ?
Il y a eu des progrès, il faut sans doute en faire encore.
On peut sanctionner les bénéficiaires du RSA qui ne cherchent pas de trouver, qui tentent pas de trouver du travail, mais pas les députés qui viennent pas au boulot dans leur job, que la France, la démocratie...
Mais c'est fait. Moi, hier, j'ai ouvert un débat sur le RSA et j'étais en même temps hier soir à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, on peut être... J'étais dans mon département à 14h et j'étais... 16h30, 17h, au début du débat à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, certains en ont été étonnés. Ils ont dit, mais il veut supprimer le RSA et lui-même, il n'est pas à l'Assemblée. Bon, ils se sont trompés, j'y étais.
On parle du RSA juste après les infos.
Écrire RFI 80 rue Camille Desmoulins 92 130 Issy-les-Moulineaux, France ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Correspondante de RFI à Pékin, Heike Schmidt.
RFI. Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Mardi politique, deuxième partie, toujours en compagnie du député Les Républicains, Éric Ciotti, pour vous interroger. Alain Onfray de Libération, Roselyne Fèvre de France 24, on revient dans un instant sur la primaire à droite, à 9 mois maintenant du premier tour de scrutin. Mais pour commencer, eh bien, un mot, on l'a promis, sur le RSA, le fameux revenu de solidarité active. Le RSA rime-t-il avec bénévolat ? La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, a en tout cas opposé une fin de non-recevoir à l'initiative du département du Haut-Rhin de conditionner le versement du RSA à des heures de bénévolat. Vous, Éric Ciotti, vous proposez une autre formule dans votre département des Alpes-Maritimes. Vous entendez suspendre automatiquement le RSA pour les allocataires qui refuseraient, alors dites-vous, deux offres raisonnables d'emploi. C'est quoi deux offres raisonnables ?
D'abord, ce dispositif est dans la loi. À ceux qui s'en émeuvent, je leur précise que c'est un article du Code de l'action sociale et de la famille qui le prévoit très, très clairement.
Donc, le bénévolat, c'est interdit, en revanche,
ça n'a jamais été appliqué. Le bénévolat, il y a un débat. Je souhaite que ça soit mis en place. Sur le fond, je soutiens cette démarche. D'ailleurs, le département des Alpes-Maritimes avait été un des 10 départements qui avait mis en place l'expérimentation souhaitée à la suite de la prise de position opportune de Laurent Wauquiez sur la fin du quinquennat précédent. 10 départements avaient expérimenté des contrats de 7 heures en contrepartie du RSA. On en avait fait dans notre département. Mais c'était un cadre juridique plus restreint et qui nécessitait l'accord de la personne. Je souhaite qu'il y ait, en effet, dans ce nécessaire équilibre entre droit et devoir, une contrepartie à l'allocation. L'allocation, c'est pas le fruit d'une cotisation. Il y a une différence entre les indemnités chômage, qui, quelque part, sont la contrepartie des cotisations que la personne qui se trouve sans emploi à payer lorsqu'elle occupait une activité salariée. Là, on est dans une démarche différente pour le RSA. Le RSA, il est financé par l'impôt, par le contribuable. C'est une démarche de solidarité nationale, 10 milliards d'euros à la charge aujourd'hui des départements pour le RSA, 17 milliards d'euros globalement avec l'État. Donc il y a cette démarche de solidarité nationale. Et je dis qu'aujourd'hui, pour que nous restions dans un modèle social qui soit accepté, oui, ceux qui ont des droits doivent aussi avoir des devoirs. Et il faut qu'il y ait une compensation. Il faut qu'il y ait l'expression de cette volonté. Donc je soutiens naturellement cette compensation, cette idée de faire travailler ceux qui bénéficient d'une allocation. Il y a un débat juridique. Éric Strauman l'a posé, le président du Conseil général du Haut-Rhin. Je le soutiens. Nous verrons bien ce que fera le préfet du Haut-Rhin, le contrôle de l'égalité.
Ça peut-être un débat pour la primaire, ça, à droite
Bien sûr. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que nous portions cette proposition et que les candidats, en tout cas celui qui sera élu, je l'espère, porte ce projet d'équilibre entre droit et devoir, de fin de l'assistanat, de nécessité de mobiliser, de réactiver l'implication dans la société de ceux qui reçoivent des allocations. Moi, pour ce qui est important dans le RSA, c'est le A d'activité. Nous devons tout faire pour que les personnes qui sont dans cette situation, souvent, c'est vrai, et je le côtoie au quotidien, je les côtoie au quotidien dans mes responsabilités de président du département, souvent en grande détresse, souvent en grande précarité, mais leur offrir un emploi, c'est pas une punition, c'est au contraire pour eux leur offrir la possibilité
de
sortir.
Ça dépend ce qu'on entend par offre raisonnable aussi.
Le mot raisonnable, il est en matière de droit du travail très clairement précisé. Une offre raisonnable, c'est une offre qui reste dans le périmètre géographique où habite la personne.
On va donner un exemple.
Et qui reste, si un Niçois est au RSA et qu'on lui propose un emploi à Lille, c'est pas une offre raisonnable. Il a une formation d'informaticien et qu'on lui propose une activité de coffreur ou de boulanger, c'est pas une offre raisonnable parce qu'elle est sur un autre secteur. Donc l'offre raisonnable, elle est géographiquement raisonnable et elle est sectoriellement raisonnable. Mais lorsqu'on a déjà reçu deux offres d'emploi et donc on refuse la troisième, toujours dans ce cadre raisonnable, eh bien moi je dis, il n'y a plus de légitimité à percevoir le fruit de la solidarité nationale et départementale qui coûte de plus en plus cher, puisque le nombre d'allocataires du RSA est passé de 1 700 000 demandeurs, c'était en 2009, à 2 200 000 aujourd'hui, donc 500 000 allocataires de plus sur un peu plus de 5 ans, c'est considérable. Ça traduit aussi la dégradation économique de la situation de notre pays, parce que il y a beaucoup de chômeurs en fin de droit.
Alain, je reviens juste sur les 7 heures d'activité par semaine, parce que ça c'est un thème qui a été défendu par beaucoup de leaders de la droite. Vous avez indiqué que ça avait été expérimenté à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, il y a un retour là-dessus, on sait ce que ça a donné.
Malheureusement, le gouvernement actuel a arrêté cette expérimentation, parce qu'elle était un peu extra-légale. Le gouvernement actuel, comme sur beaucoup de domaines, a inutilement, et je dirais de façon un peu idéologique, mis un terme, et c'est dommage, je le regrette, à cette disposition. Nous avions plusieurs dizaines de contrats de ce type dans les Alpes-Maritimes. Il donnait satisfaction à ceux qui en bénéficiaient. Donc je crois qu'il faudra remettre le chantier sur le métier. Vous le disiez tout à l'heure fort pertinemment, ce doit être un sujet au cœur de la campagne présidentielle pour notre famille politique.
C'était une question.
Oui.
Mais... je précise pour être cohérent.
La question était pertinente.
Autre proposition, vous voulez inscrire les racines chrétiennes dans la Constitution. D'abord, et d'une, à quoi ça sert? Et deux, est-ce que c'est bien compatible avec la laïcité dont parfois que vous défendez souvent?
C'est même l'indispensable complément d'une laïcité que je souhaite de plus en plus exigeante. Et je vous demande quelques secondes pour m'expliquer, parce que ça peut paraître contradictoire.
Oui.
Nous subissons aujourd'hui les assauts d'un communautarisme religieux qui est de plus en plus agressif, qui est de plus en plus conquérant et qui porte atteinte aux piliers fondateurs de notre République. Et parmi ces piliers fondateurs de notre République, il y a la laïcité. Donc je suis partisan d'une laïcité, non pas d'ouverture comme certains la défendent, et d'ailleurs Manuel Valls s'est opposé à cette laïcité d'ouverture prônée par M. Bianco et l'Observatoire de la laïcité, mais je suis pour une laïcité exigeante, qui consiste à dire qu'aucune loi religieuse ne peut être supérieure aux lois de la République. Je dis cela, et en même temps je dis qu'il faut faire la différence entre ce qui relève du cultuel et ce qui relève du culturel. Qui peut nier ? Alain Juppé l'a dit très bien dans son livre. Nicolas Sarkozy le dit, que la France est héritière de 2000 ans d'origine, d'influence, de culture chrétienne.
C'est le moment de réaffirmer ça.
Dans chaque village de France, l'architecture a été bâtie autour des églises. Dans les croix de mes sommets, dans le Mercantour, sur les sommets des montagnes du Mercantour et des Alpes, il y a des croix. Il y a dans le calendrier civil, légal, des fêtes religieuses d'origine chrétienne. Cette réalité, on ne peut pas la nier. La loi de 1905, elle s'est bâtie non pas en opposition à cette réalité, mais elle a intégré, elle a quelque part validé ce modèle culturel, puisque le calendrier civil a intégré les fêtes, je prends que cet exemple, d'origine chrétienne. Donc je dis, rappelons dans notre Constitution que la France est une république laïque, d'influence chrétienne, ce qui nous permettra d'aller plus loin dans le combat contre les communautarismes. Je trouve au contraire que c'est très complémentaire. Et ce n'est pas une position religieuse de ma part.
Et c'est pas stigmatisant pour les autres communautés ?
Je respecte toutes les religions. Et il y a une liberté constitutionnelle de penser, une liberté de croire au Dieu que l'on veut ou de ne pas croire au demeurant. Et moi, je ne suis pas dans une position qui défend une religion. Je suis pour défendre un mode de vie, une culture auxquels les Français sont très attachés aujourd'hui. Pourquoi il y a cette peur identitaire, cette angoisse? C'est parce que beaucoup de nos concitoyens nous disent « on veut modifier ce que nous sommes, on veut modifier notre mode de vie ».
Il y a en tout cas cette crainte.
Je dis, face à cette crainte, rappelons ses origines et en même temps, ayons un combat très exigeant contre le communautarisme. Moi, j'ai porté 3 propositions de loi, toutes rejetées par le gouvernement actuel. une après l'affaire de la crèche Babylou pour interdire le port de signes religieux en entreprise ou en association, c'est permis pour le public, on peut faire ce qu'on veut pour le privé. J'ai demandé qu'on interdise le port de signes religieux pour les accompagnateurs de sorties scolaires et j'ai demandé qu'on interdise le port de signes religieux à l'université. Parce que pour moi, l'université, c'est le temple de la modernité, de la science et on ne peut pas enfermer, je prends cet exemple, les femmes dans un carcan, dans un vêtement qui les contraint, dans une forme de superstition. Ce n'est pas, moi, la vision que j'ai de l'université du 21e siècle.
Alain Onfray.
Je ne suis pas sûr que toutes les étudiantes qui portent un foulard à l'université se sentent dans un carcan. Mais c'est un autre sujet, juste une question. Le Nicolas Sarkozy, dans son livre, revient là-dessus, effectivement. Et il maintient qu'il est hostile, par exemple, au port du voile à l'université, qu'il est défavorable au menu de substitution dans les cantines scolaires. Et je note qu'il est le seul, d'ailleurs, de tous les candidats qui se sont exprimés sur ce sujet, ni Fillon, ni encore moins Alain Juppé ne le suivent sur ce point-là. Et c'est d'ailleurs, quand on regarde finalement les programmes, là qu'est la différence la plus forte, parce que sur les questions économiques, au fond, ils ne sont pas si éloignés que ça. Est-ce que vous avez, on peut faire l'hypothèse que cette question-là va être une question particulièrement clivante lors de la primaire de la droite?
Je le pense, c'est une question fondamentale, celle de l'avenir de notre nation. Quelle nation voulons-nous demain? Est-ce que nous disons que la France reste unique? Que nous sommes favorables à une France de la nation, pas une France émiettée en diverses régions. Est-ce que nous sommes favorables à une France qui considère que la loi de la République sera toujours supérieure aux lois de communautés religieuses? Je crois que le communautarisme est une gangrène pour la République et que plus que jamais, nous devons combattre toutes ces formes que certains appellent pudiquement d'accommodement. Parce que d'accommodement en petit relâchement, on arrive à de grandes lâchetés et on arrive à voir reculer la République. Moi, je ne veux pas que la République recule devant les religions.
Vous avez le sentiment
et
qu'elle a reculé ces dernières années ?
Oui, bien entendu. Bien entendu,
elle a reculé. Vous le dire depuis l'arrivée du président Hollande ?
Elle a reculé sur beaucoup de choses. On voit bien que François Hollande est gêné sur cette question. Sur le débat sur la binationalité, il y a quelque part aussi cette question sous-jacente. On voit bien que François Hollande est gêné aux entournures sur ces débats. Il faut être clair. La majorité n'est pas claire là-dessus.
Bah vous non plus.
On voit à l'Assemblée nationale qu'il y a beaucoup de députés socialistes qui me paraissent de plus en plus prisonniers dans leur circonscription d'une forme de communautarisme. Il faut le dire, et je salue d'ailleurs le combat du Premier ministre là-dessus, parce qu'il a toujours été clair. Il avait d'ailleurs déposé une proposition de loi au moment de l'affaire Babylou aussi. Il a toujours eu une position très claire d'ailleurs. Vous avez noté la violence de l'affrontement avec Jean-Louis Bianco. Donc il y a deux tendances dans la gauche.
Côté, hein.
Il y a aujourd'hui une gauche socialiste communautariste et que je combats de toutes mes forces.
Alors,
et dans notre famille politique, il faut être clair, ça sera sans doute une ligne de clivage très très importante.
Elle se marque déjà.
Il y a une droite communautariste aussi. Alors Alain Juppé est communautariste.
C'est pas ce que je dis. Au contraire, dans son livre, il a été très clair contre le communautarisme.
Contre l'interdiction du voile à l'université.
Je suis pas d'accord.
Contre l'interdiction du voile pour les mamans accompagnatrices de sorties
scolaires. Je ne suis pas d'accord, puisque je rappelais que j'avais moi-même déposé de ces textes là-dessus à l'Assemblée nationale, il y a 2-3 ans, peut-être même avant que ce débat apparaisse aujourd'hui. Donc, pour le coup, je suis totalement en phase avec ce que dit Nicolas Sarkozy.
On vous trouve d'ailleurs beaucoup en phase avec ce que dit Nicolas Sarkozy entre la déchéance de nationalité et maintenant le communautarisme, à 9 mois du
vous
premier
l'avez
tour
remarqué.
Des primaires. Est-ce que, attention, la question de confiance, est-ce que vous avez choisi votre candidat? Alors, c'est ce qu'on dit depuis que vous êtes allé à cette fameuse réunion-là. C'était le 12 janvier au Toucan, un petit bar à côté du siège des Républicains.
Un bar bien
modeste.
Vous avez
rejoint le groupe des Sarkozystes.
D'abord,
et donc, on vous dit Sarkozyste.
Moi,
est-ce que vous vous reconnaissez comme tel?
Je ne vous dirai pas ce soir qui je choisirai pour la primaire, parce que ça me paraît prématuré. Ce débat pour la primaire, je considère qu'il part trop tôt. Et que parce qu'il part trop tôt, il présente des risques. Donc, préparons le projet, le risque de la division. La primaire, c'est...
Enfin, la division, elle viendra. Hein.
La primaire, c'est la...
Ne vous faites pas de soucis, elle va venir.
Vous avez malheureusement sans doute raison, mais la primaire, c'est la seule solution pour notre famille politique. Parce qu'elle va garantir l'unité à la sortie. Mais jusqu'à la primaire, il y a un risque que ceux qui nous séparent soient plus importants que ceux qui nous rassemblent. Et que certains veuille mettre l'accent pour se distinguer, après tout c'est assez légitime, il y a un débat, c'est un beau débat, sur ce qui sépare plutôt que sur ce qui rassemble. Donc c'est une crainte que j'ai. Je ne vais pas aujourd'hui participer à ce débat. Vous noterez que, voilà, moi je suis Nicolas Sarkozy depuis 1988. J'ai travaillé avec lui, y compris dans son cabinet lorsqu'il était Place Beauvau en 2005. C'est une grande fierté. J'ai été membre fondateur de l'Association des Amis Nicolas Sarkozy au lendemain de la défaite. J'ai été le porte-parole adjoint de sa campagne. Et je suis très en phase avec les idées qu'il défend.
Mais voilà. Vous avez été filloniste aussi.
Bien entendu, et j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amitié. J'ai soutenu de toutes mes forces, et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait plus que moi, François Fillon, dans son combat pour la présidence de l'UMP.
Dans la guerre contre Fillon.
Ce qui est arrivé est une profonde injustice pour François Fillon, parce que c'est lui qui avait gagné cette élection, je le redis, et mais je l'ai soutenu dans ce cadre. Je ne l'ai pas soutenu contre Nicolas Sarkozy. Jamais.
Comment vous ferez votre choix? Pardon, Pestrosi, lui, vous connaissez bien, dit qu'il votera pour celui qui sera capable de battre le FN. Ça va être quoi votre jauge pour choisir un candidat?
Moi, j'ai des convictions, vous les connaissez, je les ai exprimées ce soir. On vient de parler de la question de l'identité, on pourrait parler des questions d'autorité. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Autorité ». Je suis très attaché à faire en sorte qu'on rétablisse une autorité républicaine forte. Aujourd'hui, elle ne s'applique plus. On parlait des communautés qui dominent la République. On pourrait parler de ce qui se passe à Calais. On aurait pu parler de ce qui s'est passé à Moiran ou sur l'autoroute A1 ou ce qui s'est passé au jardin de l'Empereur à Ajaccio à Noël. Donc on voit bien que l'autorité républicaine, elle est défiée. Donc moi, je soutiendrai celui qui porte à la fois des valeurs de liberté, notamment pour l'économie, parce qu'il faut libérer notre économie de ses carcans, il faut baisser massivement les charges et les impôts, et en même temps, celui qui portera la question essentielle du rétablissement de l'autorité républicaine.
Nicolas Sarkozy est quand même fortement démonétisé dans toutes les enquêtes d'opinion. Eh bien, le coffre-fort qu'il avait, c'est-à-dire les adhérents des Républicains, eh bien aujourd'hui on voit que Juppé grignote dessus. Et surtout cette enquête du Monde qui montre que Alain Juppé arrive en tête si c'est Alain Juppé face à Marine Le Pen, et si c'est Nicolas Sarkozy, il est distancé par Marine Le Pen. Comment vous expliquez
au premier tour? Deux gagnent l'élection présidentielle.
Comment vous expliquez
cette descente vertigineuse?
On est très loin de l'échéance. Voilà, regardons ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, et les caucus de l'Iowa ont démontré que ce n'étaient pas les favoris des sondages qui étaient en tête. L'élection primaire. Et dans 9 mois, l'élection présidentielle est dans maintenant 15 mois.
Plus, la primaire, c'est dans 9.
Plus, 9 mois, je l'ai dit. Donc, c'est encore très loin, quoi. Tout ça est encore très loin. Dans les primaires, j'ai vu qu'il y avait encore un sondage cet après-midi. Au premier tour, Alain Juppé est en tête. Nicolas Sarkozy, contrairement à ce que vous dites, est très loin d'être distancé.
C'est l'étude d'ICVPOF qui est dans le monde aujourd'hui.
Ils ont une dizaine de points d'écart au premier tour. Qui peut dire que cet écart va subsister dans les 9 mois? Vous savez, généralement, aucun des favoris à la présidentielle un an avant n'a été le vainqueur. Voilà. Vous regardez les dernières élections présidentielles, une année avant, c'était M. Strauss-Kahn qui était le favori. Dans l'élection présidentielle précédente, c'était Mme Royal qui était la favorite. Si on revient un peu plus loin, c'était M. Balladur qui était le favori. C'était M. Giscard d'Estaing un an avant face à M. Mitterrand. Systématiquement, j'appelle à la prudence sur les commentaires définitifs. Et puis, ça voudrait dire qu'on prive nos électeurs de ce débat. Je crois que, voilà, quand on voit certains indicateurs, le succès du livre de Nicolas Sarkozy. Il était hier soir à Montpellier, il y a eu 1200 personnes qui sont venues acheter son livre. Partout, c'est pareil.
100 000, hein, voilà. Il baisse dans les sondages, mais 100 000 exemplaires.
Donc voilà, il y a des indicateurs qui sont aussi peut-être aussi pertinents que les sondages.
Alain Onfray.
Je pense que les auditeurs ont aucun doute sur le vote de Christian Estrosi à la prime. D'Éric Ciotti, pardon. Pardon, la prime.
De Christian Estrosi, peut-être.
Non, d'Éric Ciotti, je voulais dire.
9 fois avant.
Vous pointez, quand vous parlez de la primaire, vous dites souvent c'est très loin, il faut d'abord s'attacher au projet, sinon il y a des risques de division, etc. Et on peut complètement retourner l'argument et vous dire que la garantie de l'unité de votre famille politique, c'est justement le respect de la primaire. Et que s'il n'y avait pas de primaire, François Fillon serait même plus dans le même parti que vous. Et est-ce que d'une certaine manière, la logique unitaire, ce serait pas pour Nicolas Sarkozy d'arrêter de faire semblant d'être chef de famille et de voir pour plus tard s'il allait être candidat et d'assumer dès maintenant d'être candidat et donc de plus être chef de parti d'ailleurs et d'être dans la même compétition que les autres, parce qu'il y a une ambiguïté qu'on va encore voir ce week-end au Conseil national. Vous allez prétendre défendre un projet qui serait le projet de la famille alors qu'en vérité c'est évidemment une grand-messe Sarkozy qui est organisée ce week-end.
Il y a un temps pour tout. C'est à Nicolas Sarkozy à répondre à cette question sur son engagement personnel, s'il le souhaite, quel moment il choisira pour le faire. Moi, je dis, pour être très clair, que la primaire, je l'ai soutenue. Je l'ai voulu activement. C'est la garantie de l'unité et du succès. Parce que sans unité, on ne peut pas avoir de succès. Et aujourd'hui, très clairement, aucun autre mode de sélection n'aurait été accepté par tous les candidats. Donc la primaire, c'est une obligation et ça peut être une bonne chose. Faisons attention de ce que nous allons en faire, je le dis simplement. Si le débat part trop tôt, alors bon, des candidats se sont déjà prononcés. On peut considérer qu'il est parti, mais voilà, moi, ce débat, on l'ouvrirait plutôt au printemps qu'au cœur de l'hiver. Ça me paraît pas une erreur.
Voilà, ce qui nous permet de passer à la dernière séquence de l'émission. Comme on dit, des questions courtes, des réponses aussi courtes. Éric Ciotti, hein, je pensais qu'on vous avait perdu là. Alors, si je vous dis Éric Ciotti, ne vous résignez pas, ou bien encore, on a changé de monde, ça vous fait penser à qui? Ça vous fait penser à quoi? Oh là là. Ne vous résignez pas, point d'exclamation. Et on a changé de monde.
Bruno Le Maire, c'est pas le titre du livre de Bruno
Absolument, Le Maire? Absolument, et on a changé de monde.
On a changé le monde, ça pour beaucoup pourraient le dire, parce que c'est une réalité qui est assez partagée.
Celui de NKM, de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui sera publié juste après celui de Bruno Le Maire et avant leur annonce de candidature à la primaire.
Participe des primaires des librairies, comme a dit Brice Hortefeux. Oui.
Alors, quand on tape votre nom sur Internet, figurez-vous, on a votre thème astral. Alors, je me suis dit, je ne peux pas résister à regarder. Cite, charmeur, poli, délicat, loyal, pacifiste, séducteur, gentil. Pour moins sympa, faible, hésitant, égoïste, indécis, peureux, froid et insensible. Quel qualificatif, lesquels sont vrais?
Je ne regarde jamais.
Non, mais là, je vous le lis, là.
Le thème astral. Et je n'y accorde.
Qu'est-ce qui est vrai?
Sincèrement,
charmeur,
je vais décevoir
poli,
beaucoup.
Hésitant, égoïste, peureux, indécis, insensible.
J'aimerais les qualificatifs positifs, mais c'est pas à moi à dire quels sont-ils, quoi. Voilà, chacun aura des opinions très tranchées sur
et vous voyez comment,
les
vous
qualités, les défauts. Moi, je me vois en politique, après le privé, je me vois fidèle à des convictions. J'ai toujours défendu les mêmes convictions. Elles ont été très tranchées, très contestées, mais dès 2009, je défendais, 2007, j'ai été élu à l'Assemblée nationale, des positions sur l'autorité, sur la
fidèle,
sécurité,
donc,
qui sont
autorité,
toujours les mêmes.
On y revient. Une dernière question très rapide, très courte.
Une question qui va expliquer mon lapsus malheureux de tout à l'heure. Est-ce que vous diriez, comme Nicolas Sarkozy, que Christian Estrosi est atteint par le syndrome de Stockholm?
Je ne sais pas si Nicolas Sarkozy a dit ça. Non, je ne dirais pas ça. Qui seraient les preneurs d'otages, d'ailleurs?
Voilà, est-ce que vous diriez qu'il a dessoulé? Parce que c'est les propos qu'on avait prêtés également à Nicolas Sarkozy.
Tout ça fait partie des commentaires plus ou moins vrais. Donc, je n'y accorde aucune importance. Moi, j'ai soutenu Christian Estrosi. Je me réjouis de son élection et je le soutiens dans sa démarche à la tête de la région.
Eh ben, c'est sur ces bons mots qu'on termine Mardi Politique, réalisé par Mathias Golchani. Merci RFI, France 24, Libé. À la semaine prochaine.